Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Allô Internet! Aujourd'hui, je vais parler de la mort de la petite Phoenix Sinclair, qui a été une énorme tragédie et ça l'a mené à la plus grosse enquête publique dans toute l'histoire du Manitoba, qui est une province canadienne, concernant le système de protection à l'enfance, donc le système qui est supposé protéger les enfants. On a interrogé 126 témoins durant 11 mois d'audience et en tout, l'enquête aura coûté plus de 10 millions de dollars. Donc on se demande vraiment comment le système a pu échouer à Phoenix, comment on s'est rendu à sa mort, et on peut voir vraiment toute l'escalade de la violence dans la vie de la petite Phoenix. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous avertis, la vidéo est vraiment faite différemment, comme on a vraiment un historique, si je peux dire, à partir de la naissance de Phoenix jusqu'à sa mort, et je vous dis des dates, des faits. Je suis vraiment justement dans les faits et moins dans le raconter. Bref, on essaie quelque chose de nouveau. Et je veux dire un petit trigger warning, je le dis toujours quand on parle de maltraitance d'enfants, là cette vidéo est particulièrement troublante, particulièrement difficile. Donc voilà. Et sans plus attendre, lançons-nous dans l'histoire. Vous écoutez le podcast Over and Out. Donc, Phoenix Victoria Hope Sinclair est née le 23 avril 2000 dans la ville de Winnipeg, au Manitoba. Ses parents l'ont eu relativement jeune. Son père, Steve Sinclair, avait seulement 19 ans et sa mère, Samantha Keymatch, avait 18 ans. Les deux parents de Phoenix avaient eux-mêmes grandi, si je peux me permettre, dans le système. Ils ont été promenés d'une famille d'accueil à une autre. Donc, ils n'avaient pas du tout confiance dans le système. Dans le département de protection à la jeunesse. C'est comme ça qu'on appelle ça au Québec, donc la DPJ. Tout au long de ma vidéo, je vais appeler ça la DPJ, ça va être beaucoup plus simple. Donc le département de protection à l'enfance, à la jeunesse. Donc c'est comme un système gouvernemental qui est mis en place pour s'assurer que les enfants grandissent dans un milieu sain, une famille qui va les protéger. Donc je pense que chaque pays a ça. Ici, c'est la DPJ. Tout au long de sa grossesse, Samantha a caché sa grossesse à ses proches. Puis jusqu'à la naissance de Phoenix, les parents ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire avec elle. Ils ne savaient pas s'ils allaient la placer en adoption, ils ne savaient pas s'ils allaient la garder. Et quand elle est née, je pense qu'ils ont eu un genre de coup de cœur pour leur enfant, évidemment. Donc, ils ont décidé de la garder. Mais ils n'avaient pas du tout planifié son arrivée. Ils n'avaient pas acheté de lit, ils n'avaient pas acheté de vêtements de bébé, ils n'avaient pas acheté de couches. Et ils n'étaient pas du tout préparés non plus à l'arrivée d'un enfant dans leur vie. Samantha avait déjà un fils, mais elle avait perdu sa garde et il avait lui aussi été placé dans une famille d'accueil et elle ne le voyait plus du tout. Donc à l'hôpital, les travailleurs sociaux ont évalué la situation afin de savoir si Samantha et Steve étaient prêts à être parents, s'ils le désiraient. Et Samantha, tout au long des rencontres, elle ne semblait démontrer aucun intérêt envers son bébé ni envers le fait d'apprendre à être mère. Donc on lui donnait des conseils, on lui donnait des trucs à comment changer une couche et ça l'intéressait pas du tout. Finalement, après quelques rencontres, on a jugé que Phoenix était mieux d'être placée dans une famille d'accueil. Donc à peine âgée de quelques jours, quelques semaines, elle est entrée un peu dans le système et les parents de Phoenix ont donné leur consentement. Mais au moins, c'était juste temporaire, c'était en attendant que la petite famille, que les parents se préparent à son arrivée. Donc, il devait suivre des cours, il devait lui acheter des vêtements, un lit, des couches, et là, on allait réévaluer la situation pour intégrer la petite Phoenix dans son milieu familial auprès de ses parents biologiques. Donc, Phoenix a été placée dans un lieu temporaire du 3 mai jusqu'au mois d'août. Et pendant ce temps-là, justement, ses parents préparaient son arrivée et il y avait une travailleuse sociale qui amenait Phoenix sur les lieux un peu avant le grand déménagement. Et il évaluait comment les parents interagissaient avec leur enfant. Est-ce qu'ils montraient un intérêt? Est-ce qu'ils étaient prêts pour son arrivée? C'est un peu ce qu'on a évalué. Phoenix a réintégré son foyer en septembre et elle avait vraiment un développement normal. Je pense qu'à 5 mois, elle montrait des signes d'attachement vers ses parents. Là, c'est ce que la travailleuse sociale a évalué. Fait que ça n'avait pas changé grand-chose. Tout semblait aller pour le mieux. Mais là, à l'automne 2000, il y a Samantha qui est retombée enceinte et à chaque fois que Samantha, on va le voir, elle tombait enceinte d'un nouveau bébé, elle perdait tout son attachement envers sa fille, envers Phoenix. Et parfois, Samantha et Steve sortaient ensemble dans des soirées avec des amis et les gens leur demandaient « Mais voyons, Phoenix, c'est où? Vous l'avez laissé avec qui? » Il disait « Ah, avec un voisin, avec des amis, avec nos parents. » T'sais, c'était jamais vraiment clair, fait qu'on sait pas, est-ce qu'il la laissait seule à peine âgée de 6 mois? On sait pas. Aussi, comme Phoenix serait une petite fille du système, ben, il devait avoir des rencontres régulières qui étaient faites auprès des parents, avec l'enfant, pour qu'on voit justement si Phoenix était dans un milieu sain. Donc c'était des rencontres qui étaient régulières et monitorées de très près. Et c'est là, avec du recul, puis quand il y a eu la commission d'enquête, qu'on s'est rendu compte justement qu'il y a eu un gros manquement de la part de la DPJ, de la part des travailleurs sociaux. Parce que pendant environ 6 mois, quand Samantha est tombée enceinte, ils ont confié la garde de Phoenix à un couple d'amis qui s'en sont super bien occupés. En fait, elle aurait été beaucoup mieux de grandir avec eux. Mais à aucun moment, le travailleur social s'en est rendu compte. Donc Phoenix a été un 6 mois sans être surveillé par la DPJ. Le 18 juin 2001, il y a eu une plainte à la police pour violence conjugale, violence domestique. Steve avait été violent envers Samantha et Steve commençait à développer des problèmes d'alcool et des problèmes de violence. Et il y a des emails qui ont été envoyés à la DPJ où on questionnait le bien-être de Phoenix et de sa petite sœur qui venait de naître, Echo. Et plusieurs emails ont été envoyés à la DPJ et il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a pas de visite qui a été faite par rapport à ces emails. Et entre-temps, bon ben Samantha, elle est partie, elle a comme abandonné sa famille et Steve s'est ramassé tout seul à élever ses deux filles. Donc Phoenix qui a à peine un an et Echo, un nouveau-né. Encore là, la DPJ aurait dû faire une visite, s'assurer que les filles étaient entre bonnes mains. Steve venait d'avoir une plainte à la police pour violence. Apparemment qu'il y avait un tempérament violent et avait des problèmes d'alcool, il n'y a pas de visites qui ont été faites. Donc là, on voit beaucoup de manquements qui ont été faits dès le départ, dès le début de la vie de Phoenix. Le 15 juin 2001, il y a la petite sœur de Phoenix, Echo, qui est décédée suite à une infection aux voies respiratoires. Et à partir de là, là Steve il s'est mis à plus bien aller du tout. Il faisait juste boire toute la journée. Il a genre gratté sa guitare. La sœur de Steve lui a offert de prendre soin de Phoenix parce que quand elle la gardait, Phoenix c'était une petite fille qui était super heureuse. Elle courait, elle jouait, elle faisait du skate, elle dansait, elle jouait avec ses cousins et cousines. Donc c'était une toute autre petite fille que quand elle était avec son père ou avec sa mère plus. Rendue là, elle était âgée de 10 mois, mais elle passait la majorité de son temps chez le couple d'amis que je vous ai parlé plus tôt. C'était Kim Edwards et son mari Stevenson. Rendue en octobre 2001, donc là on est passé, okay, juillet, il y a la petite sœur de Phoenix qui meurt. Octobre 2001, la DPJ a déterminé que le dossier de Phoenix présentait un risque faible. Donc, on prévoyait sa fermeture de dossier auprès de la DPJ, auprès du système, en mars. Et là, il faut penser, ok, sa mère vient les abandonner, il y a Steven qui a des problèmes de violence, des problèmes d'alcool, il y a la petite sœur qui vient de mourir, puis on détermine que Phoenix, elle est bien dans son environnement. Bref, encore là, on peut voir que ça a été super mal évalué, tout ça. Donc là, Phoenix grandit chez le couple d'amis, surtout chez Kim Edwards. Elle a presque toujours sa garde, sauf quand elle va visiter son père une fois de temps en temps. Et là, le 26 février 2003, il y a le mari de Kim qui amène la petite à l'hôpital parce qu'elle a quelque chose dans le nez, donc un objet, puis il a essayé d'y enlever avec des pinces, puis là, la petite Phoenix, elle pleurait, ça le faisait mal, donc il a décidé de l'amener à l'hôpital. Ils ont retiré comme un gros bout de styrofoam qui était là depuis 4 mois dans son nez. Évidemment, ça lui faisait mal, ça commençait à s'infecter. Et Kim et son mari, de manière indépendante, les deux, ils avaient déjà remarqué que la petite avait quelque chose de pris dans le nez, genre un objet étranger, puis ils disaient à Steve, « Hey, amène-la à la clinique, amène-la à l'hôpital, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal, je pense que ça lui fait mal. » Et Steve s'en est complètement foutu. Donc, à l'hôpital, on a considéré que le cas de Phoenix, c'était de la négligence médicale. Et c'est pas longtemps après, en juin 2003, qu'on a réouvert son dossier à la DPJ. Et c'est là que Kim Edwards est devenue sa tutrice, son tuteur temporaire. C'est vraiment après ça que tout a dégénéré. Là, vous allez voir, là, je sais que le format de la vidéo est assez différent. Là, je vous ai énuméré des faits. Et c'est à partir de là que tout va commencer à vraiment mal aller pour la petite Phoenix. Donc, entre-temps, pendant qu'elle était partie, la mère de Phoenix, Samantha, elle a rencontré un autre homme nommé Carl Wes McKay, avec qui elle est en couple depuis 2 ans. Et là, comme ça, Samantha décide qu'elle veut avoir la garde de sa fille Phoenix. Et juste comme ça, encore une fois, on lui a accordé la garde de Phoenix à temps plein. Elle a réobtenu la garde de sa fille. Et Steve, lui, a décidé d'aller vivre sur une autre réserve en Ontario. En juillet 2004, on referme le dossier de Phoenix parce qu'on juge que sa situation ne présente aucun risque apparent. Mais pourtant, si on avait regardé un peu dans le passé du nouveau chum de Samantha, on aurait pu voir que Phoenix n'était pas du tout en sécurité à la maison. Il avait été arrêté à 3 reprises pour agression et on avait conclu dans le dossier qu'il posait une menace envers les enfants directement et indirectement à cause de sa propension à la violence. Mais là, dans son nouvel environnement, Phoenix a comme vraiment changé. Quand elle était seule ou loin de sa mère, Phoenix était souriante, elle aimait danser, elle aimait jouer, c'était une petite fille heureuse. Mais quand sa mère était dans le coin, elle devenait isolée, timide, elle parlait pas, elle était craintive. Il y a aussi une nièce de Wes qui a beaucoup témoigné dans le procès et tout ça, qui dit que Wes était super violent envers les femmes et envers les enfants. Et quand Phoenix est entrée dans leur vie, c'était une belle petite fille qui était heureuse justement, elle était souriante, pleine de vie. Mais là, rendue en 2005, quand la nièce de Wes l'a revue Phoenix, tout avait changé. Elle était rendue silencieuse, il lui avait coupé les cheveux très très courts et elle avait un bleu sur le visage. Quand la nièce de Wes allait à l'appartement, Phoenix était toujours enfermée dans sa chambre. On lui disait que c'est parce qu'elle l'écoutait pas ou parce qu'elle était pas gentille. Mais c'était un point tel que la petite n'avait même pas le droit de sortir de sa chambre pour aller à la salle de bain. Donc elle urinait dans sa chambre. Il y a une autre fille de Wes, donc il y a plusieurs enfants, donc sa plus vieille, qui habitait aussi dans le bloc appartement. Et se rappelait que à chaque fois qu'elle voyait Phoenix, c'est comme si elle dépérissait à vue d'œil, elle maigrissait et elle avait des bleus partout sur son corps. Samantha est retombée enceinte et là c'est encore pire. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle disait que c'était les hormones puis qu'elle faisait dégénérer un peu. Et elle est devenue super violente envers Phoenix. Et Samantha et Wes étaient très violents physiquement, verbalement. Ils la traitaient de petite pute, de petite bitch. Il la poussait sur le sol toujours. Elle avait genre 2-3 ans là, à peine. Et une fois, Phoenix a été obligée d'être assise sur le bol de toilette pendant une journée entière parce qu'elle s'était échappée. Mais bien sûr, c'est parce qu'il l'enfermait toute la journée dans sa chambre, fait qu'elle s'échappait dans sa chambre parce qu'elle pouvait pas sortir. Puis là, pour la punir, il l'assoit sur la bol de toilette une journée de temps. C'est des malades. Il y a une amie de Samantha, une ancienne amie, qui a appelé la DPJ pour faire une plainte, pour dire qu'elle s'inquiétait parce que à chaque fois qu'elle allait chez Samantha, la petite Phoenix était enfermée dans sa chambre. Donc elle disait, ok, la petite, elle est négligée, faut faire quelque chose. Donc il y a un employé de la DPJ qui s'est rendu sur les lieux, mais rendu sur place, Samantha n'a pas voulu laisser rentrer l'employé. Elle a dit qu'elle avait de la visite, qu'elle pouvait pas rentrer, donc l'employé a dû repartir. Et c'est tout de même incroyable parce qu'à cette époque, il y a en fait 6 personnes qui ont fait des plaintes à la DPJ en lien avec la négligence de Phoenix, mais il n'y a aucun registre de ces appels-là qui a été fait. Il y a aussi l'un des appels qui venait de la mère d'une amie de Samantha qui a appelé et qui a dit « Voyons, ça se peut pas qu'une enfant soit toujours enfermée dans une chambre avec la porte verrouillée à clé. » Et l'employé au bout du fil, la personne de la DPJ a dit « Ben non, tu sais, il n'y a pas d'urgence, c'est pas grave qu'un enfant soit enfermé dans sa chambre. Donc, il n'a pas vraiment fait de registre de cet appel-là et a déterminé que ça ne requérait pas une visite urgente.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Donc, il n'y a eu aucun follow-up qui a été fait de cet appel. C'est le 7 mars 2005 qu'un employé, en lisant le rapport, il a décidé d'aller faire une visite au bloc appartement où vivait Phoenix. En arrivant, il a vu qu'il était comme pas capable de rentrer parce que ben, c'est des blocs appartements, j'imagine que ça prend une clé pour rentrer dans la première porte. Donc, il a attendu 5 minutes dehors, mais là, c'était la fin de son corps de travail, la fin de son shift. Donc, il est parti après. Un autre employé est retourné le 9 mars. Il est resté dans le corps de porte tout le long à parler à Samantha. Il n'a pas insisté pour rentrer, il ne voulait pas entrer dans sa vie privée. Il a posé des questions sur le fait que Phoenix soit enfermé dans sa chambre, embarré dans sa chambre. Samantha a répondu qu'elle l'avait juste mis là quelques minutes pour la punir parce qu'elle avait été une mauvaise fille. L'employé a jugé acceptable la réponse. L'employé a ensuite vu une enfant passer derrière Samantha qui n'était pas Phoenix, il savait que ce n'était pas Phoenix, mais il s'est dit que l'enfant avait l'air bien et en santé, donc c'était suffisant pour lui pour se dire que Phoenix devait elle aussi être bien et en santé. Il n'a pas demandé à voir Phoenix alors que tout le long de la visite, elle devait être probablement enfermée dans sa chambre et il a demandé à ce qu'on ferme le dossier. On est à 3 mois de la mort de Phoenix. Après ça, la famille a décidé de déménager à Fisher River parce qu'ils voulaient plus de visite de la DPJ. Puis on dit « Ok, on va déménager pour que la DPJ nous laisse tranquille. » Et en effet, ça a fonctionné quelques temps parce que personne n'était au courant qu'ils avaient déménagé. Dans leur nouvelle maison, il y a les enfants, les fils de Wes qui sont venus vivre avec eux. C'est deux petits garçons de 12 et 14 ans. On va pas dire leur nom, on n'a pas leur nom en fait. Donc c'est Doe number 1, ça c'est lui de 12 ans. Et Doe number 2, c'est lui de 14 ans. Et dans la nouvelle maison, les deux enfants ont vraiment été témoins de tout l'abus horrible que vivait Phoenix. Et c'est une petite fille qui passait vraiment sous le radar parce qu'elle n'allait pas à l'école, donc il n'y avait aucune paire de yeux sur elle du tout. Il y avait juste ses parents qui la maltraitaient. Il n'y avait personne d'autre vraiment pour s'en rendre compte. Peut-être des amis de la famille, ils ont fait des plaintes, ça n'a rien changé. Mais là, il y avait deux garçons qui vivaient avec eux à temps plein. Et lui était assez vieux pour comprendre que ce que vivait Phoenix, c'était pas normal. Mais là, à ce stade-là, Phoenix était même plus enfermé dans sa chambre, était rendu embarré au sous-sol. C'était un endroit qui était sombre, qui était froid, puis elle avait rarement le droit d'en sortir. Sa mère et son beau-père l'insultaient toujours, il la nourrissait à peine. Il était en train de mourir de faim, cet enfant-là, tellement que ses deux demi-frères il allait lui donner de la nourriture en cachette quand les parents étaient partis. Et tu sais, l'abus physique, ça a commencé par tout ce qu'on a entendu, puis après ça s'est continué par des fessées. Mais très vite, Wes, il est devenu violent et il utilisait des objets. Il a frappé Phoenix avec des bâtons, des poteaux, des poignées de frigo. Il y a même une fois qu'il l'a piétiné. Il lui tirait dessus aussi avec un gun à plomb, avec un fusil à plomb. Et il y avait un jeu, là, ça s'appelait genre étrangler le poulet, étrangler la poule. Donc il étranglait, carrément, il étranglait Phoenix jusqu'à temps qu'elle perde connaissance. C'est horrible, là, ça a tellement escaladé la violence, là, ça n'a pas de sens. Il a frappé avec des coups de poing. Autant Samantha que Wes, c'est sa propre mère. Et elle vomissait, la petite, elle vomissait parce qu'elle se faisait maltraiter, parce qu'elle mangeait pas. Elle vomissait, puis elle la forçait à manger son propre vomi. Et l'abus a tellement été intense que ça nous mène au 11 juin 2005, la journée où Phoenix a perdu la vie. Oh, attendez, laissez-moi rephraser tout ça. La journée où on a enlevé la vie de Phoenix. Donc cette journée-là, Wes a battu Phoenix pendant 15 à 20 minutes sans arrêt et Samantha est assise dans le haut des marches il ne faisait que regarder. Quand Phoenix est morte, les parents ont quitté. Do, numéro 1, le petit frère de 12 ans, il est descendu pour voir si Phoenix était correct, puis il l'a touché, puis elle était déjà froide. Il a mis sa main près de sa bouche et il a réalisé qu'il ne respirait plus. Là, il a décidé d'appeler son père. En fait, ses parents étaient partis chez le grand-père, donc il a appelé à la maison du grand-père, il a demandé à parler à son père. Puis là, il a dit « Ok, là, Phoenix respire plus, elle est froide. » Les parents sont tout de suite rentrés à la maison. Do number one, le petit frère, il a amené Phoenix dans le bain, il a versé de l'eau dessus, de l'eau tiède pour essayer de la réveiller. Ça fonctionnait pas, elle était déjà morte. Après, il a essayé de lui faire le bouche-à-bouche, ça fonctionnait pas. Donc, en fait, ils l'ont enroulé dans une couverture. Ils ont placé le corps de la petite Phoenix dans le coffre de la voiture de Samantha. Et là, ils ont dit au petit garçon, si on te demande quoi que ce soit par rapport à Phoenix, fais juste dire qu'elle est partie vivre avec son père à Winnipeg. Donc les mois ont passé, carrément des mois ont passé, puis les proches de Samantha, de la petite Phoenix, commençaient à s'inquiéter de Phoenix. Voyons, elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Samantha sortait comme son classique baratin. Elle disait, ah, Phoenix est partie vivre chez son père. Et la plupart des gens dans cette ville-là, les amis de Samantha, ne connaissaient pas Steve Sinclair. Ils le connaissaient pas, ils savaient pas vraiment où le contacter, fait qu'ils ont juste cru Samantha. Il y a une amie de la famille qui se rappelle qu'elle est allée visiter Samantha, genre une semaine après la mort de Phoenix. Puis elle cognait, ça répondait pas, puis elle est comme rentrée, sans qu'on lui dise entrer, mais elle est rentrée par la porte de derrière, et elle a tout de suite remarqué, à l'intérieur de la maison, près de la porte de derrière, des gouttes de sang sur le sol. Et elle a vraiment eu un mauvais feeling. Samantha, elle était dans la maison, elle était devant l'ordi et elle pleurait. Normalement, Samantha était comme devant la télé, vachée, puis en pyjama, mais là, elle était juste devant l'ordi puis elle était pas capable d'arrêter de pleurer. Quand l'amie lui a demandé où elle était, Phoenix, elle a dit « elle est partie chez son père ». Et là, cette amie-là, elle a juste quitté parce qu'elle savait qu'il y avait de quoi de bizarre qui s'était passé. Il y a la tante de Samantha aussi qui s'inquiétait énormément de la petite Phoenix. Elle lui demandait à chaque fois qu'elle la voyait, genre, elle est où Phoenix? Elle est où? Dis-moi, elle est où? Puis Samantha disait toujours, elle est chez son père, mais elle savait que c'était pas vrai. Elle a même passé une journée au téléphone à faire des appels, à la chercher. Elle appelait la DPJ, elle appelait les écoles, elle appelait partout pour savoir elle était où. Incapable de la trouver. Le 28 février 2006, il y a Doe Number 2, donc le petit gars de 14 ans. Le fils de Wesley, qui a parlé à sa mère. Donc là, la mère avait réobtenu la garde de ses enfants. Et il a dit à sa mère que c'était son père qui avait tué la petite fille. Et il avait l'air d'avoir vraiment peur. Dès qu'ils sont rentrés, la femme a commencé à faire des appels. La même journée, la police s'est présentée chez elle. Et là, la femme, accompagnée de ses deux fils, ont donné toutes les informations qu'ils connaissaient. Comme par exemple, le plus jeune se rappelle que son père et Samantha s'étaient débarrassés du corps de Phoenix dans les bois.
The death of a 5-year-old Winnipeg girl, and tonight the family of Phoenix Sinclair.
Phoenix Sinclair.
Phoenix Sinclair.
Une enquête a tout de suite été ouverte pour la disparition de la petite Phoenix Sinclair. Et ça n'a pas été long que Wes et Samantha ont été arrêtés en lien avec sa disparition. Le 10 mars 2006, on a Wes qui a tout avoué, il a confessé le meurtre de Phoenix devant la caméra à la GRC.
Tell me, explain to me how it happened.
I can't remember. It's
try and remember for me, okay?
She put her in the corner, and she, I don't know what the fuck, and she came out of the corner.
And then Phoenix?
Yeah. And then I grabbed it, I threw her on the clothes. There's a bag of clothes I threw on there. And says, you know, listen to your mom, I said. So we went, we left, and then Daniel called me, she said that. This little girl wasn't breathing anymore.
Where'd you bury her?
In the bush somewhere.
Where?
By the garbage dump.
Il a dit que Phoenix faisait trop de bruit, fait qu'il l'aurait juste lancé dans une pile de vêtements, que Samantha était présente, et que quand ils sont partis, elle était correcte, jusqu'à temps que son fils l'appelle pour lui dire que Phoenix ne respirait plus. Apparemment, qu'en rentrant, ils ont tous essayé de lui faire le bouche-à-bouche, la réanimer, ça fonctionnait pas. Donc, ils ont décidé de se débarrasser de son corps.
Okay, so you went downstairs and she's laying on the floor. How was she laying?
She was laying on her back.
Okay, did she have any clothes on? No. So when you guys went down there and you found her naked laying on her back, Okay, and then that's when it got into where you went to get garbage bags and you guys wrapped her, and we talked about that already.
We talked about stuff like that already, yeah.
Yeah.
Il l'aurait enveloppé dans du plastique et la nuit tombée, il l'aurait placé dans le coffre de la voiture. Il aurait ensuite conduit jusqu'au dépotoir et là, sur place, ils ont creusé un trou d'environ 30 cm et ils l'ont enterré là. C'est dégueulasse comme témoignage, puis le témoignage de sa mère est presque aussi pire. En fait, elle a mis l'accent sur le fait qu'elle était là pendant que Wes avait tué Phoenix, mais qu'elle n'était pas responsable, t'sais, qu'elle n'avait pas participé. Elle pense que Phoenix est morte après avoir été poussée par Wes parce qu'elle se rappelle qu'elle avait remarqué genre un petit trou dans sa tête et il y avait genre un clou sur le mur. Puis il y avait beaucoup de sang sur le sol. Fait qu'elle pense que c'est ça qui l'a achevé. Elle a aussi admis avoir battu Phoenix avec un bâton la nuit avant qu'elle meure. Elle dit aussi qu'elle l'avait étranglé quelques fois, qu'elle l'avait mis dans une cage au sous-sol parce que selon elle, elle n'était pas propre. Fait qu'elle faisait pipi, caca partout, fait que c'était plus simple de la mettre dans une cage. C'est aussi une des raisons pour laquelle, apparemment, elle habillait rarement sa fille. Donc le 15 mars, Samantha et Wes ont été chargés pour le meurtre au premier degré de Phoenix Sinclair et ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. La GRC a vraiment cherché son corps pendant plusieurs jours et l'ont pas trouvé. Mais grâce à l'aide du département d'anthropologie de l'université de Winnipeg, ils ont prélevé comme un échantillon de la terre dans le dépotoir. Ils ont fait une analyse sur cet échantillon en question et ils ont déterminé que l'échantillon contenait des ossements et de la chair humaine. Ils ont pu faire une analyse ADN sur la terre et on a pu prouver que les fragments d'ossements et de chair humaine appartenait à Phoenix. Fait que c'est assez en fait comme preuve pour appuyer la confession. Et après ça, il y a une grosse enquête là, justement qui a été faite, à savoir pourquoi depuis sa naissance jusqu'à sa mort, elle a pu être maltraitée de la sorte, elle a pu être assassinée de la sorte, tout en étant suivie par la DPJ. La commission d'enquête a commencé en novembre 2012 et comme je l'ai dit, ce fut l'enquête la plus dispendieuse dans la province du Manitoba. Ça a coûté entre 10 millions et 14 millions de dollars, ce qui est quand même très cher. Le commissaire a fait 62 recommandations pour améliorer le système de protection à l'enfance et que c'était urgent de modifier des problèmes qui sont jugés comme ancré profondément dans le système. Donc on parle de manque de main-d'œuvre, manque de formation probablement, manque de budget, ça doit être un gros problème. Tu sais, oui, c'est beaucoup de problèmes tout ça, mais il y a quand même le système qui a profondément échoué de protéger la petite Phoenix Sinclair. Et c'est fou que tout ça se soit passé sous les yeux de professionnels. Donc voilà pour cette histoire. Ça nous fait réaliser un peu à quel point il y a des horreurs qui se passent dans le monde, mais à quel point des fois c'est proche de chez nous. Puis il faut justement, là, je vais le dire encore, garder l'œil ouvert sur nos voisins, des amis de la famille. Tu sais, des fois si on a des doutes, c'est bon d'appeler. Puis au pire, ils vont aller faire une petite visite, ils vont juger que c'est correct. Mais des situations comme ça, comme la petite fille de Granby, comme Aurore, bref, des situations comme ça, faut plus que ça arrive. Puis il y en a beaucoup trop des histoires d'enfants martyrs, c'est dégueulasse. Fait que sinon, ben, sur cette note, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le verre. Over and out.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.